pour comprendre et débattre, rubrique hebdomadaire proposée dans Info 30 le mardi par PFM et Paul Masson. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle une nouvelle fois que vous êtes habitant arageois, membre de Culture et Liberté et d'Attaque Artois. On poursuit aujourd'hui notre série d'émissions sur le thème de l'éducation populaire. On en arrive aujourd'hui à la période de l'entre-deux-guerres. Alors, en quoi, Paul, la Première Guerre mondiale modifie-t-elle la donne en ce qui concerne l'éducation populaire ?
Alors, je vous avais dit dans une émission précédente que ce qui caractérisait tout le temps l'éducation populaire, c'est qu'il y avait un défi, une nouvelle situation, et que par rapport à cette nouvelle situation, les hommes avaient besoin de trouver un moyen pour régler ça. Ce qui va caractériser après 1914, la première chose, c'est que 14-18, ça a été une boucherie où une quantité énorme d'hommes sont morts. Pour donner un chiffre, on est encore au mois de novembre, au Chemin des Dames, une bataille, c'est 2000 morts par jour pendant la bataille du Chemin des Dames. Voilà l'hécatombe. Quand on se promène de partout, les monuments aux morts, on en a de partout. C'est-à-dire que ce qui va se produire après-guerre, c'est qu'on va avoir toute une génération qui va naître, qui va vivre sans père. Les hommes sont morts à la guerre. Et ça va être un défi.
Alors comment la société s'organise-t-elle par rapport à cet état de fait ?
L'éducation populaire va s'intéresser énormément à ça et ça va être l'émergence des mouvements de jeunesse qui vont prendre de l'importance. Alors, au niveau des mouvements de jeunesse, je vais faire deux catégories. Il va y avoir tout ce qui se passe au niveau du scoutisme, tout ce qui est le mouvement scout et les éclaireurs. De dire, alors, ces jeunes, comment on va les éduquer, comment on va leur apprendre à vivre en société ? Et il va y avoir, autour du scoutisme, lié à l'importance de la nature, la mise en place tout un tas de méthodes pédagogiques qui vont se mettre en place, qui vont reposer sur vivre ensemble. On s'installe quelque part, il faut monter le camp, il faut organiser le camp, il faut organiser l'intendance, et il va y avoir tout un tas d'apprentissages qui vont se faire dans ce vivre ensemble.
Alors, d'où ça vient ce mouvement scoutisme ? Qui est-ce qui l'organise ?
Alors, au départ, le mouvement scout, c'est Baden-Powell. C'était un militaire anglais. Et puis ça prendra différentes formes, à la fois du côté des laïcs, à la fois du côté des mouvements chrétiens. Mais c'est l'idée de retour à la nature, d'encadrement de la jeunesse et apprendre à vivre ensemble.
Alors, autre mouvement qui naît entre deux guerres, donc c'est le JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne.
Voilà. Il va y avoir aussi, concernant la jeunesse, autre chose qui va naître à cette époque, 1927 en France, quelques années avant en Belgique. Ça part de la Belgique, de la part d'un prêtre de paroisse qui voit le décalage entre les paroissiens qui viennent le voir et qui vont à l'église régulièrement, et puis une majorité de gens, et essentiellement des jeunes, qui, eux, ne viennent jamais à l'église, c'est les ouvriers. Et il va, lui, s'intéresser à rencontrer ces jeunes et leur permettre de s'organiser. C'est comme ça que va naître la JOC. Faire en sorte que les jeunes s'organisent entre eux. La JOC va se développer. Et alors, dans le nord de la France, c'est parti du nord de la France. Et ça s'est étendu en France. Ça va être un mouvement qui va se structurer dans l'Église et qui continue d'exister. Au départ, ça démarre de la JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, c'est-à-dire des jeunes ouvriers entre eux, mais ça va se développer aussi dans les campagnes avec un autre nom, la Jeunesse Agricole Chrétienne, qui deviendra plus tard le MRJC, qui continue d'exister. On va avoir cette idée de formation de la jeunesse, où ce soit les jeunes entre eux, qui accompagnés par des adultes, mais que ce soit les jeunes qui déterminent ce qu'ils veulent, et là aussi, ce qui va être intéressant au niveau de l'apport du mouvement ouvrier, ça va être les méthodes pédagogiques, où on va structurer une démarche de réflexion collective, hein, que une démarche en trois temps, le voir, juger, agir de la JOC, qui prend d'une organisation à l'autre, prend pas forcément exactement les mêmes mots, mais l'idée de dire, si on veut que les personnes se prennent en charge, il y a nécessité que régulièrement, elles s'arrêtent sur leur action pour un temps de réflexion qui articule action-réflexion. Et la réflexion, il y a une méthode qui progressivement se théorise. Premier temps, voir qu'est-ce qui caractérise mon action, quelle est la situation, qu'est-ce que ça donne par rapport à ce constat, à une sorte de diagnostic. Le voir, c'est rien d'autre qu'un diagnostic, une évaluation, estimer la valeur, c'est le juger. Finalement, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est conforme à ce qu'on veut? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la phase de jugement, d'analyse. Et ensuite, par rapport à ça, décision d'action pour transformer, pour modifier la situation. On est dans une sorte de mouvement de spirale. Une fois qu'on a agi, on repasse par la phase analyse de l'action, qu'est-ce qu'elle a produit, de nouveau un voir, réflexion sur ce que ça a produit, suite à cette réflexion, décision d'agir. Et on va avoir toute une démarche pédagogique qui va s'apprendre, qui va se structurer, se construire, où on a réflexion, action et des outils qui accompagnent la réflexion et des outils qui accompagnent l'action.
Alors, Paul, ce qui caractérise ces deux mouvements, vous l'avez dit, c'est qu'elles touchent en priorité la jeunesse, mais aussi qu'elles apportent donc tout cet aspect théorique au mouvement de l'éducation populaire.
Voilà, tout à fait. On peut dire que c'est à ce moment-là, c'est entre deux guerres, que va se théoriser les démarches d'éducation populaire. Jusque-là, la démarche d'éducation populaire qu'on a pu voir était vécue. Entre deux guerres, progressivement, on va avoir une théorisation. Démarche active, ce qu'on vient de voir. C'est tout le temps mise à l'action, réflexion sur l'action. Freinet, qui travaille dans les écoles, il est instituteur après-guerre. Les méthodes Freinet, les méthodes actives dans l'enseignement vont naître aussi à cette époque-là. Et probablement qu'il y a une influence de l'un sur l'autre réciproquement.
Paul, on va peut-être annoncer le programme de la prochaine séquence pour comprendre et débattre mardi prochain dans Info 30.
Alors, la semaine prochaine, on verra un temps fort, c'est la reconnaissance officielle de l'éducation populaire 1936.